Tendance Ouest.
Tendance Ouest.
Écoutez les chroniques spirituelles de frère Paul Adrien.
Bienvenue dans cette chronique spirituelle. Je suis le frère Paul Adrien d'Ardemar. Je suis prêtre religieux catholique. Et aujourd'hui, avant de parler de l'évangile du jour, je me suis dit que nous allions faire un détour du côté du mystère de la vie. Ça veut dire quoi pour une femme que d'être enceinte dans différentes traditions religieuses? Nous commençons avec l'hindouisme. Dans la tradition hindoue, la grossesse est bien plus qu'un état biologique, c'est un acte sacré. C'est une porte entre le ciel et la terre. Le ventre maternel est vu quasiment comme un temple vivant où une âme venue d'un autre monde s'incarne. Et cette âme n'arrive pas par hasard, elle est attirée par le karma, le lien invisible entre les vies passées et futures. C'est pourquoi, dès la conception, la femme est invitée à vivre dans la paix, la pureté, à écouter des chants sacrés et à lire les Écritures. Il existe même un rituel pour prier pour l'âme qui va naître, pour qu'elle soit noble, sage, tournée vers Dieu. On ne fait pas qu'attendre un enfant. On prépare un être spirituel, un porteur de lumière. Dans certains textes mystiques, la grossesse va même devenir une image intérieure. C'est l'âme du croyant qui est comme un ventre où Dieu fait germer la sagesse. Nous continuons avec le taoïsme, la gestation du mystère. Dans le Tao, une philosophie chinoise religieuse, le Tao, c'est cette réalité invisible, une source inépuisable de vie. Dans le Tao Te Ching, qui est le grand livre du taoïsme, le Tao est souvent comparé à une mère qui enfante. Et le sage, pour rester en lien avec le Tao, doit apprendre à vivre comme un embryon dans le ventre maternel. Le sage est l'embryon et le ventre maternel est le Tao. Et le sage doit être comme un embryon, calme, centré, caché, nourri de l'intérieur, enfoui dans le Tao. Le taoïsme valorise profondément l'image de la grossesse, non pour ce qu'elle produit, mais pour ce qu'elle enseigne, la lenteur, l'humilité, le silence, le Tao qui enfante toute chose. Ça revient à être souple comme un nouveau-né, silencieux comme un fœtus, attentif comme une mère. Et dans la femme enceinte, on va voir le reflet du cosmos, l'endroit où les forces du yin, les forces réceptives, et les forces du yang, créatrices, s'unissent. Et la gestation dans le ventre maternel devient un symbole de maturation intérieure. On ne force pas la vie, on l'accueille. On ne maîtrise pas la croissance, on la laisse vivre. Continuons avec le christianisme. Dans le christianisme, la grossesse est bien plus qu'un événement naturel. C'est le lieu que Dieu a choisi pour rentrer dans le monde. C'est pas rien quand même. En devenant enceinte par l'Esprit-Saint, Marie incarne le mystère du don total de la vie. Marie accueille Dieu dans le monde. Elle accepte de porter en elle la parole de Dieu sans tout comprendre dans la foi pure, mais le ventre maternel devient la porte d'entrée par laquelle Dieu est entré dans le monde. Mais dans la Bible, deuxième enseignement, la grossesse est souvent prise aussi comme l'exemple type de la douleur, de la souffrance. Dans l'Évangile, la femme qui enfante devient l'image du croyant ou de l'Église qui souffre, qui est persécuté, qui est proche de la vie et de la mort, quand on sait le nombre de femmes qui sont mortes en accouchant, c'est le symbole de la douleur, mais d'une douleur qui est habitée d'espérance parce qu'elle a du sens. C'est une douleur à la limite de ce qui est supportable, mais c'est une douleur qui est belle parce qu'on enfante une vie nouvelle et que sitôt l'enfantement accompli, on oublie la souffrance. Saint Paul qui ira jusqu'à dire « Je souffre les douleurs de l'enfantement pour vous, jusqu'à ce que en vous, le Christ soit formé. » Et nous passons maintenant à l'évangile du jour. Nous le lisons avant de le commenter. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et... chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Nous sommes en train de nous acheminer vers la Pentecôte et il commence à être fait mention de l'Esprit-Saint à travers ce que l'on appelle le défenseur, le paraclet, un thème qui va aller croissant jusqu'à ce qu'on arrive à la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est bientôt le don de l'Esprit-Saint. D'où, parlons un peu de ce fameux Esprit-Saint, un acteur souvent discret mais pourtant central dans notre vie de foi. Il est peut-être la personne de la Trinité la moins comprise, la plus mystérieuse, celle que l'on invoque souvent sans trop savoir ni ce qu'on lui demande, ni à qui on le demande. Et pourtant, sans lui, tout s'écroule. Sans lui, la foi chrétienne n'est qu'une idée, une abstraction, une théorie froide, sans feu ni lumière. Avec lui, la foi chrétienne, ça devient autre chose. Alors, qui est-il? Comment agit-il? Commençons par l'essentiel. L'essentiel. L'Esprit-Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. Ce n'est pas une force impersonnelle, ce n'est pas une énergie, un symbole ou une métaphore ou l'amour. C'est quelqu'un. L'Esprit-Saint, on peut lui parler et il répond. Même si la manière dont il répond est un peu déstabilisante. Mais on peut lui parler, c'est quelqu'un. C'est une personne divine, à la fois distincte du Père et du Fils, et pourtant totalement unis au Père et au Fils, tous ensemble ils sont un seul Dieu, mais de la même manière que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que l'Esprit-Saint est Dieu, ils sont tous Dieu. On pourrait dire, pour la faire simple, que le Père crée, le Fils sauve, l'Esprit anime. L'Esprit donne la vie. L'Esprit vivifie. L'Esprit, c'est le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu est tellement puissant que le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est ça, l'Esprit-Saint. C'est celui qui plane sur les eaux au commencement. C'est Dieu qui inspire les prophètes. C'est Dieu qui fait renaître les cœurs. Dans la Bible, Dieu, en tant qu'il est Esprit-Saint, est comparé à un vent, à un feu, à une colombe. Des images puissantes qui disent de l'Esprit-Saint et de Dieu son invisibilité, le vent, sa douceur, la colombe, et sa force, le feu. Il est libre comme le vent. Tu entends le vent, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Jean 3,8. Il est brûlant comme le feu. À la Pentecôte, il descend sur les apôtres sous forme de langue de feu et leur cœur s'enflamme et il est paisible comme une colombe. Signe de paix, signe de réconciliation, comme cette colombe qui descendit sur Jésus lors de son baptême. Bon, ça, c'est l'Esprit-Saint. Maintenant, concrètement, dans votre vie, il fait quoi? C'est simple, il fait tout. Il fait tout ce qui vous unit à Dieu. C'est quoi ce qui vous unit à Dieu? Ce qui vous unit à Dieu, c'est comme un souffle, c'est comme un vent, c'est comme un feu, c'est comme une colombe. Le lien entre le Père et vous, ça, c'est l'Esprit-Saint. Quand tu pries, c'est l'Esprit-Saint qui t'attire. Quand tu comprends la parole de Dieu, c'est l'Esprit-Saint qui t'éclaire. Et quand tu pardonnes l'impardonnable, en toi, c'est l'Esprit-Saint qui agit. Sans lui, tu ne peux même pas dire « Jésus est Seigneur ». L'Esprit-Saint, c'est l'artisan caché de ta vie intérieure. Regardez ce qu'il a fait dans l'histoire du salut. C'est lui qui a engendré le Christ dans le sein de Marie. C'est lui qui est descendu sur Jésus au baptême. C'est lui qui a conduit Jésus au désert. C'est lui qui l'a relevé d'entre les morts. Et après l'ascension, c'est encore lui qui a été envoyé par Jésus sur l'Église. Et depuis, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, mais qui est aussi devenu l'Esprit de Jésus, enfin, je veux dire, c'est Dieu qui l'exprime de toute éternité, mais c'est aussi Jésus qui, dans sa chair, en mourant sur la croix, en rendant son dernier souffle, nous l'a donné. C'est ce qu'on appelle la procession éternelle de l'Esprit Saint de toute éternité dans la Trinité et la procession temporelle de l'Esprit Saint dans notre histoire sur la croix. C'est l'Esprit qui maintenant fait grandir le corps du Christ qui est l'Église. C'est lui qui vous envoie en mission. C'est lui qui vous donne les charismes. C'est lui qui vous permet de faire des miracles. C'est lui qui vous sanctifie dans les sacrements. C'est lui qui agit dans l'Église. Et sans l'Esprit Saint, l'Église serait une organisation morte, de la même manière que sans l'Esprit Saint, votre foi serait juste une idée. Mais de la même manière que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu vous a donné son Esprit Saint. Donc, comment vivre avec l'Esprit Saint? Trois mots-clés, l'invoquer, l'écouter, lui obéir. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire exactement, écoutez, demandez à l'Esprit Saint de vous apprendre. Il y a des choses, moi je peux vous les dire, mais c'est quand même Dieu qui vous les fera expérimenter. Donc, comment vivre avec l'Esprit Saint? Invoquez-le, écoutez-le, obéissez-lui. Esprit Saint, viens habiter mon cœur, fais de moi un instrument de ton amour, apprends-moi à prier, à aimer, à espérer, renouvelle en moi la grâce du baptême et que je ne vive plus sans toi. Amen. Bien voilà, c'est la fin de cette chronique spirituelle. C'était le frère Paul-Adrien d'Ardemar. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche.
Retrouvez le frère Paul-Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitch et Discord.